À vous.
Merci beaucoup. Donc je vais vous parler de différentes choses, mais en particulier d'une étude qu'on a faite avec une équipe de recherche au CEPREMAP, et qui était une étude qui, en fait, à l'origine, était commanditée par un grand financeur public qui est venu nous voir à peu près en 2006 en disant, voilà, ce serait super d'évaluer les pôles de compétitivité. Donc évidemment, comme c'était une année après que la décision a été prise, on lui a expliqué que c'était quelque chose qui était totalement impossible, qu'on ne pouvait pas évaluer les choses tout de suite. Déjà qu'ils y aient pensé, c'était une bonne nouvelle. Et un an après, c'était une deuxième bonne nouvelle. Et donc on lui a dit à ce grand financeur public qu'on allait faire quelque chose d'un tout petit peu différent, qu'on allait essayer de faire une évaluation ex post. Donc Sandra Poncet vous a parlé de l'évaluation ex ante. Nous, on fait une évaluation ex post, mais d'un dispositif plus ancien, qui est en quelque sorte l'ancêtre des pôles de compétitivité, qui s'appelle les SPL, les systèmes de production localisés, qui est une politique de cluster en quelque sorte en miniature, donc qui a des avantages et des inconvénients. L'avantage, c'est que c'est quelque chose qui ne coûte pas très cher, et qui continue d'ailleurs. L'inconvénient, c'est qu'évidemment, ça n'a pas du tout la même portée, le même poids et la même puissance financière que les pôles de compétitivité. Et donc les conclusions que je vais vous donner sont à mettre en perspective de cette plus petite ambition. Donc pour ceux qui veulent les résultats détaillés, il y a un petit opuscule du CEPREMAP en français que vous pouvez soit acheter pour 3 euros, soit télécharger gratuitement sur le site du CEPREMAP. Et dans lequel il y a un peu tous les méthodes précises. Je vais vous donner quelques grandes idées. L'objectif de ce travail, c'était en fait d'essayer de dire deux choses. D'essayer de quantifier d'abord ce dont Thierry Madias a parlé et ce dont Sandra a parlé aussi, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on peut attendre en termes de gains économiques des clusters? Quelle est l'ampleur financière des gains qu'on peut attendre et essayer de mettre un chiffre là-dessus? Est-ce qu'on peut attendre un miracle des pôles de compétitivité ou est-ce qu'il faut être un peu plus raisonnable? Et la deuxième approche, c'était de dire, une fois qu'on sait qu'il y a des gains à l'agglomération des activités, est-ce que les politiques de type SPL ou pôle de compétitivité sont un instrument désirable, souhaitable et efficace? Alors, je ne vais pas vous redire ce que sont les pôles de compétitivité, vous en avez entendu parler. Je ne vais pas vous dire que c'est géographique parce que vous en avez entendu parler. Donc, on va aller beaucoup plus vite que ça. Je vais vous montrer juste des résultats et potentiellement des graphiques si ce truc veut bien marcher. Voilà. On a une première partie qui essaye de regarder à partir donc de données d'entreprises françaises l'ampleur de ces gains dont Thierry Madias vous a parlé. Donc, quelle est l'ampleur du gain à être ensemble plutôt qu'à être séparé sur le territoire en termes en particulier de productivité? Alors, il y a beaucoup, beaucoup d'études en fait dans la littérature. Assez étrangement, il n'y en a pas beaucoup sur la France. Donc, c'était intéressant de voir si on retrouvait un peu les mêmes résultats sur la France. Pour retenir un chiffre, si dans un cluster ou dans un territoire donné, vous doublez le nombre d'emplois dans un secteur donné, vous allez augmenter la productivité moyenne des entreprises de l'ordre de 5 à 8 %. Hein, la productivité totale des facteurs, ce qu'on appelle donc la productivité totale des entreprises, et donc potentiellement la croissance de long terme de ces entreprises. Bon, doubler le nombre d'emplois dans un secteur, ce n'est pas un choc négligeable. Hein, ça arrive, mais ce n'est pas un choc négligeable. Et 5 à 8 %, vous ferez votre propre idée de si c'est un chiffre important ou pas. On trouve que c'est un chiffre, disons, raisonnable. C'est exactement la même chose en fait que ce qu'on trouve en France. Mais ce n'est pas ce chiffre-là qui va faire qu'on va trouver une croissance décuplée en France. Et donc, il faut être relativement prudent sur l'ampleur des gains à attendre de ce type de cluster. Donc, on trouve en France cet ordre de grandeur des gains de productivité. Il y a des gains à être au même endroit et à faire la même activité, comme on l'avait vu, et on a un chiffre précis. Maintenant, la deuxième question, c'est, étant donné qu'il y a ces gains, que font les entreprises? Donc, Thierry Madias nous a dit, le fait qu'il y ait ces gains, ce sont des gains externes, ce sont des gains que l'entreprise ne capture pas en entier, fait qu'on a un problème avec des entreprises qui peut-être ne s'aggloméreraient pas assez par rapport à ce qui serait socialement optimal. Donc, on a essayé de répondre à cette question. Est-ce que vraiment les entreprises ne s'agglomèrent pas assez? Est-ce qu'il faut plus d'agglomération? Ou est-ce que, comme la Datar, dont Sandra a parlé tout à l'heure, l'a pensé en tout cas pendant 40 ans, est-ce qu'au contraire, Il faut disperser parce que il y a une question d'inéquité spatiale et que disperser l'activité, c'est une manière de réduire l'inéquité spatiale, ce qui est un objectif tout à fait disons louable si vous vous donnez comme objectif d'avoir une équité spatiale. Donc la question, c'est donc est-ce que on peut comparer la géographie réelle avec une géographie optimale? Est-ce que la France à une géographie, entre guillemets, optimale de ces secteurs, ou au contraire, est-ce qu'on est très loin de cette géographie optimale? Dans ce cas, il faudrait pousser les entreprises à s'agglomérer plus, ce qui est un petit peu ce que la politique des SPL et la politique des pôles de compétitivité entretient, hein, c'est-à-dire pousser à l'agglomération pour gagner ces pôles de compétitivité. Et la réponse tient en gros dans ce graphique qui a l'air un petit peu compliqué, mais qui en fait n'est pas très compliqué. Vous avez deux courbes dans ce graphique. La courbe qui est jolie et régulière, c'est la courbe théorique qu'on a estimée à partir de notre travail statistique. Et elle vous dit donc, plus quand vous montez là sur le sommet de cette courbe, le deuxième point là-haut, ça vous dit donc quel est le pic estimé de productivité. Donc quel est le niveau d'agglomération qui amène le plus haut niveau de productivité pour les entreprises. Et en gros, bon, on a un chiffre qui est 1800 employés dans une zone d'emploi dans un secteur. C'est un chiffre qui est à prendre avec des énormément de pincettes. Hein. Ce chiffre en soi, évidemment, résulte d'une estimation statistique qui a beaucoup de défauts afférents à ce type d'estimation. Mais ce qui est intéressant, c'est que voilà, on a un chiffre, c'est 1800. Et puis l'autre courbe, c'est le pic de la distribution observée. C'est qu'est-ce qu'on a vraiment en France? Et donc c'est la distribution de l'agglomération au niveau des zones d'emploi en France. Et ce pic observé, si vous regardez la tête de ces deux courbes, elles se suivent, elles ne sont pas si loin que ça en fait. Alors comme c'est en log, en fait c'est pas tout près non plus. Hein. Le pic observé c'est 660 employés. Mais ce qui est intéressant, c'est que les deux formes se suivent à peu près, et que ce que ça vous dit, c'est que en fait les entreprises internalisent ces effets d'agglomération en partie. Elles savent que être près les unes des autres dans une activité amène des gains, et donc elles ne se mettent pas n'importe où pour faire n'importe quelle activité. Et donc une grande partie du travail, entre guillemets, de gains de productivité lié au cluster est faite par le marché lui-même, c'est-à-dire par les entreprises qui choisissent de se localiser à l'intérieur des clusters. Donc ça, c'est une première chose qui nous dit que peut-être qu'il n'y a pas besoin d'autant d'intervention de l'État que ça, puisque les entreprises font déjà le travail au moins en partie en tant que tel. Pour vous donner un chiffre, si on passait du pic observé au pic optimal, on gagnerait 2,1% de productivité au niveau total dans l'économie, ce qui est, encore une fois, non négligeable, mais qui n'est pas une révolution et un miracle économique. Donc, encore une fois, on trouve des gains, mais on trouve des gains qui sont peut-être un peu moins importants que ce que, en particulier, l'organisme financier qui était venu nous voir au départ pensait. Il pensait qu'on trouverait beaucoup plus. Donc c'est qui a expliqué certaines disons, désappointements de ces financeurs, dont on pourra reparler peut-être plus tard. Alors, maintenant, juste finir dans la minute qui me reste sur les SPL, qui est une expérience intéressante, les SPL, les systèmes productifs locaux. C'est une expérience intéressante, elle est assez proche des pôles, elle est tellement proche des pôles que, en fait, vous avez un quart des SPL qui fonctionnaient sous le même système, en fait. Hein, avec, d'abord, on labellise, et puis ensuite, il y a des projets, et ces projets sont de beaucoup plus petite envergure que les pôles de compétitivité, mais vous avez donc des entreprises qui, en gros, appartiennent ou n'appartiennent pas au SPL à l'intérieur d'une zone d'emploi. Et puis, on observe une date de passage qui est, en gros, l'année 1999, 2000 et 2001. Vous avez plusieurs vagues de labellisation et on peut identifier ces entreprises. Vous avez un quart qui sont passés en pôle de compétitivité. Donc, ça vous dit quand même que on n'évalue pas les pôles de compétitivité, mais c'est pas si loin que ça. Il y en a quand même un quart qui sont devenus pôles de compétitivité. Les meilleurs, évidemment. Donc, c'était assez intéressant, je trouvais, tout à l'heure qu'on disait que 1,5 milliard d'euros, c'était énorme. Donc, c'est beaucoup plus gros que les SPL, où la somme est très faible. C'est devenu ridicule par rapport au plan de relance macroéconomique dont on entend parler, et même au grand emprunt. Mais ça reste quand même une somme relativement importante. Et l'évaluation est à ce titre importante, parce que si on montre que les pôles de comité, ça marche très bien, c'est sûr que dans le grand emprunt, par exemple, qui va se décider la semaine prochaine ou dans les futurs, il y aura plus d'argent qui sera donné aux pôles de compétitivité. Donc l'évaluation est vraiment importante. Alors, Je vais vous montrer deux graphiques qui parlent plus que les mots. Ce graphique, il vous montre, donc sur l'axe des abscisses, vous avez le nombre d'années par rapport à l'entrée dans un SPL pour une entreprise. Donc en gros, zéro, là c'est l'année 2000, il y a trois années, donc c'est essentiellement centré autour de l'année 2000. Puis vous regardez la productivité des entreprises par rapport à celles qui ne sont pas dans les SPL, et donc on peut regarder leur traîne de productivité au cours du temps. Et si on regarde leur traîne de productivité au cours du temps, on commence par remarquer qu'elles démarrent plus bas que les autres, c'est-à-dire que c'est plutôt les entreprises qui sont moins productives que les autres, et au fur et à mesure du temps, leur productivité a tendance à s'éloigner de celles qui ne sont pas dans les SPL. Donc les SPL, c'est sur le papier très comme les pôles de compétitivité, c'est dans la réalité un petit peu différent, où en fait c'est beaucoup plus une politique d'aménagement du territoire un petit peu à l'ancienne, en tout cas il y a beaucoup qui s'est fait un petit peu comme ça, où on a choisi d'aider des entreprises qui en fait au départ étaient en difficulté, et le moins qu'on puisse dire, en tout cas sur ce graphique-là, c'est qu'il ne s'est pas passé grand-chose au moment où elles sont entrées dans les SPL. Hein, on ne voit pas du tout de rupture dans ce trend. Alors ça, c'est des données un petit peu brutes. Et puis après, on regarde les différences en différences. Donc on essaye de comparer en fait ces entreprises à un groupe de référence qui est les entreprises les plus comparables possibles à l'intérieur de la même zone d'emploi dans le même secteur. Donc on essaye de vraiment un peu avoir une approche systématique. Et là, vous voyez autour de zéro, il se passe des choses autour de zéro, mais rien de statistiquement significatif autour de zéro. En gros, il y a pratiquement aucun impact en fait autour de l'entrée du SPL de la productivité. Il y a un tout petit quelque chose sur les toutes petites firmes. Donc pour les toutes petites firmes, les firmes mono-établissements, il y a un tout petit gain de productivité, mais c'est dans la marge d'erreur qu'on y a. Voilà, donc qu'est-ce que l'étude des SPL nous apprend ? Elle nous apprend en gros que celles qui sont rentrées dans les SPL étaient plutôt celles qui étaient en difficulté, malgré l'objectif annoncé, qui n'était pas du tout celui-là. Hein. L'objectif annoncé pour les SPL était plus ou moins le même que celui annoncé pour les pôles de convivialité, qui était plutôt d'aider les winners de demain plutôt que les entreprises en difficulté. Il se trouve que ce n'est pas exactement ce qui s'est passé. Il y a eu très peu d'impact de la politique sur la productivité, cette politique-là. Donc c'est difficile de décréter un cluster. Il y a eu plus d'impact sur les petits que sur les gros. Et ça, c'est un aspect intéressant, parce que les pôles de compétitivité, c'est un peu l'approche inverse. C'est-à-dire qu'on va vraiment favoriser les gros. Nous, on montre que peut-être ce type de politique, en fait, c'est pas mal pour les petits. Comme elle est peu coûteuse, on dit que c'est pas très grave. Que ça marche pas très bien parce que ça coûte pas très cher, mais là ça change un petit peu avec les politiques, les pôles de compétitivité. Les gains des clusters sont relativement modestes, mais ils existent, donc ça c'est un aspect important, et surtout ils sont en partie déjà internalisés par les entreprises. Donc ça c'est l'aspect aussi qui justifie le fait que la politique économique a assez peu d'impact, c'est que comme les entreprises le font déjà de toute façon, en fait, la politique de soutien au cluster, en gros, ne rajoute pas énormément par rapport à ce qui se passe déjà un petit peu naturellement. Le choix des pôles, on l'a vu avec Sandra, c'est une politique centralisée. Donc on pourra peut-être se poser des questions sur est-ce que l'État est le mieux à même de faire ça. Je ne vais pas critiquer plus que ça les pôles, je vais juste finir. On pourra en reparler après. Je pense que la prochaine étape pour l'évaluation, pour vraiment évaluer les pôles, qui est une chose qui devrait se lancer, j'espère qu'il y aura des gens et des administrations qui voudront que cette évaluation se fasse. Je pense que pour évaluer les pôles, d'abord, il faut faire à peu près la même chose sur les pôles. Maintenant, on a un petit peu de recul, on a 4 ans, donc on peut commencer à faire ce genre de choses-là. Surtout, le deuxième aspect qui est très important, c'est de regarder si le passage dans les pôles a favorisé l'innovation. Ça, c'est quelque chose qu'on ne pouvait pas faire et que maintenant, on peut faire. Ça, c'est un objectif central. Et la troisième chose, c'est vérifier que le canal dont on pensait qu'il était celui d'amélioration est bien celui qui fonctionne. C'est-à-dire qu'il faut vérifier que quand on passe dans les pôles, on coopère plus qu'avant. Et qu'en gros, le pôle favorise la coopération qui ne se passait pas naturellement, qui est quelque chose qui serait également intéressant. Voilà, je m'arrête là. Merci beaucoup.
Merci beaucoup, Thierry Mandier. Ce qui veut dire que vous vous rejoignez tous en disant qu'il faut absolument une évaluation aujourd'hui des pôles de compétitivité et que le SPL est peut-être une première marche, mais ce n'est pas certain. Donc, écoute, je vais donner la parole à Claude Graff, qui, lui, dirige, préside le pôle de compétitivité Tenerdis, énergie renouvelable, qui est basé à Grenoble, mais qui a un rayon d'action presque régional. Il aura plein de réponses à apporter. Est-ce que le territoire choisi était légitime? Est-ce que les PME sont bien associées? Je crois qu'il y a 200 adhérents à votre pôle, dont une grande partie de PME parmi les industriels. Et combien de projets ont à ce stade abouti? Et voilà. Je vous passe la parole, Monsieur Graff.
Merci, bonjour à tous. D'abord, j'en profite pour, parce qu'il y a beaucoup d'universitaires qui ont analysé les pôles, pour vous dire d'abord que les pôles, ça marche, et que ça marche en particulier en Rhône-Alpes, puisqu'en Rhône-Alpes, il y a 15 pôles de compétitivité dans des domaines aussi divers que la biotechnologie, que les nanotechnologies, que les énergies renouvelables dont s'occupe Tenerdis, mais de plein d'autres domaines, de plasturgie, etc. Pourquoi est-ce qu'il y a ça en Rhône-Alpes? Parce que c'est une région où, historiquement, et bien avant les pôles, on a pu voir des collaborations quotidiennes entre les universités, les grandes entreprises et les centres de recherche. Donc, ça a été d'autant plus facile d'accélérer à travers ces créations de pôles, ces travaux en commun, dans le but d'accélérer l'innovation, de rendre les entreprises plus compétitives et d'améliorer l'attractivité du territoire. Donc, je crois que, fondamentalement, les pôles ont permis en Rhône-Alpes, de renforcer encore ces rapprochements, que ce soit des rapprochements de grandes entreprises, de petites entreprises, puisque je crois que ça ne sert à rien de les opposer. Les pôles permettent de faire accéder à l'innovation un certain nombre de petites entreprises, souvent très, très dynamiques, de leur faciliter l'accès à des financements publics ou privés, puisqu'il y a bien sûr les financements publics, mais un pôle comme Tenerdis, mais aussi en contact des PME avec des business angels, avec d'autres financeurs privés, parce que tout ne doit pas venir de l'État. Et bien sûr, il y a le propre investissement des entreprises. Alors, si on parle de Tenerdis est un pôle qui est basé sur l'ensemble de la région Rhône-Alpes, dont le siège est à Grenoble, mais qui travaille aussi bien avec des entreprises d'universités de Lyon, de Grenoble, de Chambéry, que ce soit l'INSA à Lyon, que ce soit l'INP à Grenoble, que ce soit l'Université de Savoie, avec des grands centres de recherche comme le CEA ou le CNRS, avec des grandes entreprises dans tous les domaines, et en particulier Tenerdis, dans le domaine des énergies renouvelables, concentre un quart de l'ensemble des entreprises qui, en France, sont dans ces domaines-là. Les domaines d'excellence de Tenerdis sont les nouvelles technologies d'énergie, c'est-à-dire tout ce qui est lié au solaire et bâtiments, tout ce qui est développé dans ce domaine-là, tout ce qui est lié à l'hydrogène aux piles à combustible, tout ce qui est lié au réseau de demain, parce que quand vous allez avoir beaucoup d'énergie renouvelable, il faut connecter tout ça au réseau, c'est très compliqué. Et donc, tout ce qui est réseau de demain, smart grid, c'est un domaine clé du pôle. Les deux autres aspects du pôle sont l'hydraulique, puisque historiquement, l'hydraulique, 40% ou 50% d'hydraulique était fait en Rhône-Alpes avec des centres de recherche importants. Et aujourd'hui, on travaille par exemple sur les hydroliennes pour tout ce qui est énergie marine. Et puis la biomasse. Donc, cinq domaines d'excellence dans les nouvelles technologies d'énergie appliquées aux bâtiments et aux transports essentiellement, mais aussi à l'industrie, parce que c'est le bâtiment et le transport sur lesquels on peut faire le plus d'économies d'énergie et appliquer le plus possible de nouvelles technologies d'énergie renouvelable. Donc ça, ce sont les domaines d'excellence, avec donc ces travaux en commun et cette mise en commun de projets d'innovation dans l'ensemble des entreprises, donc essentiellement sur efficacité énergétique, énergie renouvelable, avec donc ces centres d'excellence, et tout à fait donc en phase avec le Grenelle d'environnement qui cherche à pousser, et avec l'Europe, tous ces domaines-là. Alors, en termes très, très, très concrets de résultats concrets, aujourd'hui, Tenerdis, c'est à peu près 200 acteurs, dans lesquels deux tiers sont des industriels, et dans les industriels, deux tiers sont des PME. Donc, ce n'est pas un truc de grands groupes. Il y a eu des grands groupes, et il faut des grands groupes qui permettent de permettre d'avancer, de démarrer des grands projets. Et ensuite, c'est un travail en commun avec des grands groupes et des PME, et beaucoup de PME qui, de ce fait-là, travaillent ensemble. Alors, un pôle de compétitivité, c'est pas... je crois que j'ai entendu quelqu'un dire qu'on offre des financements à une entreprise. Ce n'est pas ça du tout. C'est-à-dire, ce sont des projets collaboratifs, par définition, dans lesquels il y a plusieurs entreprises ou centres de recherche ou universités, ce n'est jamais une entreprise toute seule, qui travaillent ensemble et qui ont défini un projet commun d'innovation sur lequel on fait contribuer le centre de recherche, le CEA par exemple, une petite entreprise et une autre, pour aller vers des choses nouvelles. Et effectivement, le but étant plutôt d'aller sur les métiers de demain, sur les technologies de demain, que sur le passé. Et donc l'essentiel, c'est d'accélérer l'innovation pour trouver des nouveaux débouchés. Je prends un exemple très simple. Il y a une PME qui faisait de l'impression de jet d'encre. Bon, c'est bien, mais ce n'est pas un business d'avenir. Elles ont travaillé aujourd'hui, en travaillant avec le CEA, avec d'autres, à la façon d'utiliser leur savoir-faire d'impression pour imprimer des nouvelles technologies de solaire sur des films différents, sur des supports différents. Et donc, à partir de savoir-faire classique, aller sur des nouvelles technologies et des diversifications. D'autres qui travaillent dans des fours pour l'automobile sont en train de se tourner vers des fours destinés aux matériaux solaires. Et donc, là encore, on permet à des sociétés d'aller vers de l'innovation en utilisant finalement une partie de savoir-faire traditionnel et des savoir-faire nouveaux venant des technologies de recherche, venant des universités ou venant des centres de recherche de la région pour aller plus loin. Alors, en termes de chiffres, il y a eu à peu près 320 projets collaboratifs de R&D qui ont été labellisés par TNR10 et examinés donc par des experts de TNR10. Alors, les experts de TNR10, ce sont des experts qui viennent des entreprises ou des universités qui sont dans les domaines du solaire, des piles à combustible, etc. Et plus de 123 d'entre eux ont été financés et représentaient un montant d'environ 300 millions d'euros et ont été financés pour 120 millions d'euros par les collectivités locales et par l'État. Ça veut dire que les deux tiers du financement sont venus de ces entreprises. Donc c'est toujours un mix de financement propre des entreprises ou des différents organismes associé à un financement complémentaire de l'État. Et je crois que c'est une bonne chose. Et c'est là où l'État joue bien son rôle, parce que c'est fait aux États-Unis, c'est fait au Japon, c'est fait ailleurs. C'est toujours un mix d'investissements d'entreprises, parce qu'il faut qu'elles se mouillent. Ce n'est pas juste demander de l'argent. Et c'est complémenté par l'État qui permet à des entreprises d'innover, d'aller plus loin et d'être en avance par rapport à la compétition internationale. Alors, en termes aussi de fonctionnement, je crois qu'il est important de... Alors, on fait ça sur le territoire de Rhône-Alpes, mais ça ne sert à rien de cacher sa copie. L'important, c'est de communiquer et de travailler en réseau. Donc, TNR10 travaille en réseau avec trois autres pôles en France qui sont dans le domaine des énergies renouvelables, qui sont Derby à Perpignan ou Cap Énergie dans le sud et S2 à Tours. Parce qu'on pense que l'innovation ne peut se faire de façon complémentaire et on collabélise des projets ensemble ou on développe des incitations pour les entreprises d'aller voir à l'étranger ce qui se passe. Donc on mutualise des moyens pour aller plus vite. Et puis on va aussi au-delà, puisqu'on est en train de monter des coopérations, par exemple, avec le NREL, qui est le laboratoire américain le plus prestigieux en matière d'énergie renouvelable. Ils étaient à Grenoble et à Lyon la semaine dernière. Pour monter une coopération, parce qu'on s'aperçoit que dans le domaine du solaire, dans le domaine des réseaux, on travaille sur des sujets complémentaires qui ne sont pas nécessairement beaucoup plus géniaux que nous, ni vice-versa, mais qu'ensemble, on peut aller plus vite et que finalement, on peut optimiser tout ça. Et je crois que fondamentalement, par rapport à ce qui a été dit aussi, on peut absolument, et il faut dans le monde d'aujourd'hui, être compétiteur et coopérer ensemble, et puis ensuite, au niveau de amont de la recherche, pour aller plus vite. Ensuite, au niveau des marchés, au niveau des marques, les territoires, les entreprises redeviennent concurrentes. Mais pour aller plus vite, il est toujours beaucoup préférable de faire une espèce de coopération. Et donc, de mixer compétition et coopération, ce n'est pas incompatible, ça se fait et ça permet d'accélérer l'innovation. Donc, des choses très, très concrètes et très pragmatiques. Dans un autre domaine aussi de coopération, et qui est centré sur Rhône-Alpes. Vous savez que le gouvernement a lancé un nouvel appel à projet pour des pôles d'écotechnologie ou dits d'écotechnologie. Et donc, nous avons rassemblé les forces de quatre pôles de la région, donc LUTB, qui est centré sur les transports de demain, Minalogie, qui est centré sur l'efficacité énergétique et les nanotechnologies, Accelera, qui est sur chimie et environnement, mais aussi le pôle, qui n'est pas un pôle, mais Innovation Constructive, qui est sur les matériaux de demain, pour ensemble aller au-delà de ce qui est fait dans chacun de ces pôles, qui a chacun un métier propre, mais d'aller sur des visions systémiques d'innovation, c'est-à-dire de travailler en termes d'efficacité énergétique sur les métiers, la maison de demain ou le bâtiment de demain, en reliant, par exemple, la voiture électrique de demain associée à un bâtiment de nouvelles technologies, associée à du solaire, sachant que le solaire peut développer de l'énergie, recharger les batteries, des voitures, que ça peut aller aussi dans l'autre sens, et qu'en même temps, on fait ça dans des bâtiments de plus en plus sophistiqués et qui managent l'énergie. Donc, aller sur des projets systémiques, et on a dans la région Rhône-Alpes ce savoir-faire et cette concentration de savoir-faire et cette volonté qui a été, donc on attend les résultats prochainement ou en début d'année, cette coopération et cette mise en commun d'innovation. Parce que je crois que fondamentalement, cette innovation, elle est collective, elle permet d'aller plus vite, et elle associe des gros et des petits, des centres de recherche, des universitaires. Et finalement, dans cette région, du fait de l'histoire, du fait de l'historique, ça se passe plutôt bien. Ce n'est pas quelque chose qui est imposé. Les pôles l'ont catalysé, ont permis d'accélérer, ont permis de structurer les projets. Et donc, c'est quelque chose qui fonctionne. Donc, je suis un peu... je ne suis pas là pour vendre ou survendre le pôle. Ce n'est pas le sujet. Vous pouvez tous l'évaluer autant que vous voulez. Il a été évalué par le BCG, par un certain nombre de choses. Vous avez raison. Il faut mesurer l'efficacité. Il faut trouver des moyens simples de est-ce que finalement ça permet d'aller plus vite? Est-ce qu'on fait plus de choses que... Je suis persuadé qu'un certain nombre d'entreprises peuvent aller plus vite et ça leur permet d'innover, d'aller plus vite. Je prends le dernier exemple, c'est une société qui est sur Grenoble, qui s'appelle Récupil, qui fait qui travaille sur de l'innovation dans la récupération des batteries, des matériaux, et qui aujourd'hui, en s'associant avec d'autres membres du pôle, va développer de la récupération de panneaux photovoltaïques, tout le monde dit que le soleil, c'est bien, c'est vert, c'est green, sauf que c'est quand même assez compliqué, c'est du silicium, il y a des problèmes de fin de vie qu'il faut les traiter. Donc, les pôles permettent donc d'innover sur des choses de ce type, et là, ce sont des PME qui, associées à des centres de recherche, se développent. Voilà, je pense que c'était un exemple concret, mais il y en a plein d'autres dans la région, puisqu'encore une fois, il y a une quinzaine de pôles. Merci.
Merci beaucoup, Monsieur Graff. Je vais donner la parole maintenant à Henri Jacquot, qui est donc l'élu de cette table ronde et qui, on a dit que l'État avait mis beaucoup d'argent dans les pôles, mais les collectivités locales aussi, au premier rang desquelles la région Rhône-Alpes, mais aussi le Grand Lyon et d'autres communautés urbaines et départements. Donc, Monsieur Jacquot, je vous laisse défendre aussi l'argent, les subventions que vous
donnez. L'argent public est justifié de la bonne utilisation de l'argent public, exactement. Qui n'est effectivement pas exclusivement celui de l'État, mais aussi celui des collectivités. Merci de cette invitation et je suis très heureux de pouvoir effectivement témoigner de la politique de la région Rhône-Alpes dans ce domaine. Alors, Monsieur Graff l'a déjà dit, ça va m'éviter de le répéter, mais c'est vrai que la région Rhône-Alpes a quand même une tradition de travail en réseau, d'action collective et d'intervention, y compris de la région, avant même l'existence des pôles de compétitivité. On avait des clusters économiques, y compris comme dispositifs régionaux, dans le cadre de notre schéma régional de développement économique. On avait des clusters scientifiques, puisque dans le domaine scientifique, le schéma régional d'enseignement supérieur et de la recherche que nous avons voté, avant même que les pôles arrivent, essayaient de mobiliser les acteurs scientifiques autour de thèmes qui étaient porteurs d'utilisation et d'application utiles. Donc on avait un climat favorable qui fait que les pouvoirs publics régionaux, mais aussi, vous l'avez dit, des collectivités comme le Grand Lyon, la métro de Grenoble, etc., se sont résolument engagés au moment où l'appel à projet pour les pôles sont arrivés. Donc effectivement, sur les 71 pôles nationaux, 15 sont régionaux, alors que Rhône-Alpes est, dit-on, classiquement la France au 10e, hein, puisque en gros, 6 400 000 habitants, on est la France au 10e. Or, on a 20% de pôles. Il est vrai 10 qui sont en ligne directe et pilotés en Rhône-Alpes et 5 qui sont en organisation avec d'autres régions et pilotés par d'autres régions. Sans les détailler tous, mais je crois que c'était intéressant et je crois que dans l'évaluation, vous avez parlé d'évaluation, il y aurait beaucoup de choses à dire sur l'évaluation, ex ante, ex post et in itinere, hein, puisque si on veut parler latin, il y a aussi l'évaluation en cours qui est assez fondamentale. Et effectivement, dans ces 15 pôles de compétitivité, je crois que c'est intéressant de voir. On a 3 mondiaux, puisque désormais, il n'y a plus que 2 catégories et pas 3 catégories. Hein, donc on en a effectivement 3 mondiaux. Si on les rappelle, on a effectivement Accéléra dans le domaine de chimie-environnement. Donc là, on est à la fois sur Lyon, sur Grenoble. Voilà. Ensuite, on est à Minalogique dans la microtechnologie, les nanotechnologies. On est vraiment sur Grenoble avec cette tradition de longue date des liens entre les acteurs économiques, les acteurs scientifiques et les acteurs politiques. Hein, ce triptyque, je crois, qui est tout à fait indispensable. Et puis, effectivement, on a Lyon Biopôle, où là aussi, un rôle très important d'ailleurs, qui a été pris par la communauté urbaine de Lyon, y compris dans l'initiative même de rassembler au départ l'ensemble des acteurs. Enfin, tout ça est quand même important. C'est la première catégorie. Il y a une deuxième catégorie de pôle de compétitivité en Rhône-Alpes, qui s'appuie plutôt, c'est une typologie personnelle, hein, je ne l'impose pas, mais je crois que c'est intéressant dans l'évaluation d'avoir un raisonnement typologique. Et pas forcément peut-être entre les mondiaux et les non-mondiaux, qui est l'un des critères, mais à mon avis qui ne doit pas être le seul. Le deuxième paquet s'appuie fondamentalement sur des industries plutôt traditionnelles, mais très développées en Rhône-Alpes. Rhône-Alpes, France au 10e, est très diversifiée. Donc on a Lyon Urban Tracks and Bus, hein, donc les transports effectivement urbains ou camions, etc. On a Textera, donc toute la dimension textile. On a Plastipolis, donc là, on va retrouver ce qui était un système productif local qui a été évoqué tout à l'heure, hein, qui est la vallée du plastique de Yonax. Et puis, on a Arve Industrie, là aussi, on retrouve un SPL, donc un système productif local sur le décolletage dans la vallée de l'Arve. Hein, ça m'en fait 7, sauf erreur. Il en reste 3 qui sont très importants, dont Enerdis, qui participent justement non pas tant d'industries anciennes qui continuent leur dynamique, mais qui sont au carrefour, à ce moment où on est, de branches différentes, de filières différentes, et qui produisent des produits ou des services nouveaux, voilà, et donc particulièrement innovants. Donc l'innovation, elle est à la fois dans les branches anciennes, mais elle est aussi dans les branches nouvelles, y aurait ça. Donc là, on va trouver évidemment Enerdis, hein, adossé d'ailleurs avec un cluster économique et avec une demande de la région que la gouvernance à la fois du cluster économique, lui, ciblé sur le marché et ciblé sur des initiatives en termes de commercialisation, de performance industrielle, de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences. J'y reviendrai parce que ce point me paraît décisif. Et puis, donc, on a effectivement Enerdis, on a Sporaltech, qui effectivement, lui, est le seul pôle parmi les 10 qui a eu une évaluation par le Boston Consulting Group relativement défavorable. Hein, les 9 autres étaient entièrement favorables. Et puis, j'en ai un.
Imaginov,
naturellement, hein, que je ne saurais oublier, puisque là aussi, on est évidemment dans l'informatique, les jeux, y compris de simulation à destination industrielle. Hein, tous ces points sont absolument importants et très novateurs par rapport aux branches qui existent, qui sont structurés, puisque là, on est dans des secteurs industriels où les branches ne sont pas constituées en tant que telles. Et ça recoupe, effectivement, et ça, c'est très important pour les acteurs, et notamment, c'est très important pour le deuxième aspect que je voudrais souligner, puisque, alors, il me resterait, donc j'ai fait 3 typologies, il restait les quatrièmes, qui sont ceux qui sont dans lesquels Rhône-Alpes est engagé, mais n'est pas en tête de ligne. Il y en a 5. Il y en a 3 dans le domaine agroalimentaire que j'ai pu citer. Tout à l'heure, vous parliez de la viande. Il y a Innoviande, notamment, dans lequel Rhône-Alpes est. Il y a les parfums. Il y a les fruits et légumes. Hein, donc, vous voyez des secteurs qui sont quand même très présents et très importants et pour lesquels le secteur agroalimentaire, la dynamisation et la modernisation est aussi indispensable que pour le reste. Et puis, je n'oublierai pas Trimatech, puisque là, on est le nucléaire, mais où le pôle principal, évidemment, est PACA, hein, mais en liaison très forte avec nous. Et puis, Viameca, qui est aussi sur un secteur d'industrie classique, industrielle, métallurgie des poudres, etc., les frottements. Et là, c'est l'Auvergne qui, effectivement, est en première ligne, avec notamment... effectivement, oui, c'est l'Auvergne. Voilà, donc on a une typologie de pôles qui sont différents. Là-dedans, la région s'y est résolument engagée, comme je l'ai dit. Alors, en essayant de donner, modestement, par rapport au montant que vous avez donné, je peux tout de même donner les chiffres de Rhône-Alpes. C'est quand même des montants importants, notamment au niveau de l'animation des pôles, hein, puisque nous finançons l'animation des pôles. Et puis, nous nous engageons sur des projets que tel ou tel pôle ayant soumissionné au niveau national, comme ça a été expliqué par M. Graff, nous mettons aussi au pot commun, je dirais, de certains de ces projets, mais pas forcément de tous les projets. La région a choisi d'appuyer les projets avec un certain nombre de conditions qu'elle s'est données à elle-même. Alors, ces conditions sont d'une part l'importance des PME, c'est fondamental. Effectivement, on a été de ceux qui voulaient absolument que cette dynamique de pôle, et nous on voulait qu'avec notre argent Rhône-Alpin, celui des contribuables Rhône-Alpin, mais donné pour le développement économique et l'innovation en Rhône-Alpes, eh bien, profite aussi, et peut-être plus que sur nos fonds à nous, aux PME qu'aux grands groupes qui ont évidemment accès éventuellement à d'autres financements. Les financements, nous les donnons donc la plupart du temps aux organismes d'ailleurs de scientifiques, aux universités qui sont dans les pôles, le canal très précis, soutien à des PME aussi, donc ça c'est le premier critère. Le deuxième critère, c'est la dimension environnementale qui maintenant est un lieu commun, mais que les projets soutenus, et on a regardé de très près, on a négocié, y compris avec Minalogic, pour que les projets donnés soient bien explicitement et exemptés, économiseurs d'eau, par exemple, etc., etc. Enfin, ces dimensions sont fondamentales. Et puis un troisième aspect sur lequel je voudrais un tout petit peu insister, qui est la dimension de la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences, et la dimension de la formation. Puisqu'effectivement, ça a été dit d'ailleurs, y compris dans l'évaluation du Boston Consulting Group, ça a été dit aussi dans le rapport, qui est un avis du Conseil économique social national sur les pôles, qui est intéressant, très qualitatif, mais qui est intéressant, c'est le rôle essentiel de la dimension des ressources humaines, des emplois et des compétences. Je rappelle que compétitivité et compétence, c'est la même étymologie, et ce n'est pas un hasard. Et que donc, naturellement, il y a la dimension des personnels scientifiques, dans les 7 critères que vous évoquiez, monsieur Mendiès, de Europe Scoreboard. Le premier, c'est le personnel, et le deuxième, c'est la formation continue. Puisqu'évidemment, si on veut développer à un niveau industriel et à un niveau d'emploi, qui est quand même l'un des objectifs des financements de Rhône-Alpes, c'est effectivement qu'en bout de ligne, on se retrouve bien sur des emplois et non pas des plateformes, je dirais, de décollage de grands groupes qui iraient produire industriellement ailleurs ce qui aurait été innové dans les pôles de compétitivité. Donc ça, c'est quand même un vrai problème. C'est comment on passe de l'innovation dans les laboratoires à une innovation industrialisée et qui se traduise dans nos territoires par, effectivement, des emplois, des qualifications, la sécurisation des parcours. C'est en tout cas l'approche de la région. Donc cette dimension emploi-formation est essentielle. Je crois, monsieur Graff, que d'ailleurs, cette dimension est très prise en compte dans un pôle comme le vôtre, et notamment dans les pôles nouveaux. J'ai eu aussi l'occasion d'avoir des rencontres, par exemple avec Imaginov, on avait les mêmes types de problèmes, puisque les compétences nouvelles qui sont requises ne sont pas actuellement existantes sur le marché, ne donne pas lieu à des conventions collectives, par exemple, parce que tout ça, c'est fondamental. On ne va pas faire ici de l'économie du travail, on est plutôt en économie de l'innovation ou en économie industrielle, mais on sait bien que les conventions collectives, par exemple, sont un mode de régulation, y compris de la concurrence des entreprises entre elles, puisque pour s'arracher une main-d'œuvre qualifiée qui serait rare, la qualification est importante, effectivement, pour réguler tout ça. Donc cette dimension-là est fondamentale, et je termine, mais M. Graff l'a déjà dit, en disant qu'à l'avenir, la question importante, c'est celle de l'interclustering, c'est un point très important, et qu'effectivement, on est en train de passer à une échelle supérieure, qui est d'essayer d'imaginer des projets, M. Graff l'a évoqué, notamment ce projet, on verra bien les réponses, sur éco-technologie, qui rassemble, voyez, là encore, au second degré, en quelque sorte, à la puissance 2, ces initiatives de convergence et de complémentarité. Voilà ce que je voulais très rapidement dire.
Un pôle des pôles. Voilà. Je vais passer la parole à la salle. Si vous avez des questions, je crois qu'il y a des hôtesses qui vont vous passer les micros. Voilà, si vous voulez bien vous désigner.